L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Je vais maintenant accueillir le pasteur Jean qui va nous apporter un message de la parole de Dieu pour nous encourager. Pasteur Jean, tu es le bienvenu. Et on croit que le Seigneur va nous parler, car le Seigneur est bon. Et puisque je suis mon pasteur qui est un modèle pour moi, pasteur Joël, eh bien, je vais prier pour notre invité spécial.
Alléluia!
Seigneur, on te remercie pour ta parole parce qu'elle est bonne. Et on te remercie pour l'onction du Saint-Esprit sur la vie de pasteur Jean. Merci parce que tu as fait de lui un encourageur, un exhortateur de ta parole. Et au travers de sa bouche, ce matin, tu viens nous exhorter, nous pousser à aller beaucoup plus loin, Seigneur, dans notre vie avec toi. On te glorifie, on te remercie, on ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, on veut changer, on veut que tu nous parles. On veut que tu puisses nous parler précisément, individuellement, pour aller plus loin avec toi. Merci Saint-Esprit. Amen.
Merci beaucoup, pasteur Jérémy.
Est-ce qu'il y a des guerriers dans cette place? Comment lever la main? Je veux voir les guerriers, y en a-tu? Non, ben, ça m'en prend, là. Y a-t-il des guerriers dans cette place? Regarde la personne à côté de toi, dis-y, t'es assis à côté d'un héros de Dieu. Regarde la personne, si la personne à côté de toi, tourne-toi de bord, t'es assis à côté d'un héros de Dieu. C'est fabuleux. C'est fabuleux, il y a une gang d'héros dans cette place. Et savez-vous que ça fait, les héros? Ça vient rencontrer des géants et ça les terrasse. Ce matin, l'objectif de ma prédication, c'est que vous rencontriez les géants de votre vie, que vous les terrassiez. Il n'y en a pas un, je le déclare dans le nom de Jésus, qui va se tenir debout devant vous après cette prédication ce matin. Ils vont tous plier genoux, vous allez pogner le scraper, vous allez tasser sur le bord et vous allez continuer votre chemin. C'est ce qui va se passer ici ce matin. Est-ce qu'il y a des guerriers dans cette place? Come on! C'est ce qu'on veut. OK, c'est ce qu'on veut. Comment terrasser les géants, c'est le titre de ce message. Et puis, ce qu'on appelle un géant, écoutez, trouvez-vous ce matin que j'ai l'air grand?
Ben oui, come on.
Comment? Savez-vous pourquoi vous trouvez que j'ai l'air grand du haut de mes 5 pieds 10? Parce que vous me regardez d'en bas. Donc moi, quand je vous regarde d'en haut, je trouve que vous avez l'air petit. Et un géant, si on a un regard terrestre face à un géant, on va le trouver extrêmement gros. Mais si on a un regard céleste face à un géant, il va être gros de même. Alors, ça va être à nous autres de choisir notre regard ce matin, mais on va y aller ensemble et on va voir comment qu'on fait pour arriver à avoir un regard céleste sur nos géants. Et les géants, parce que pasteur Jérémy, tantôt, il l'a apporté, on va en avoir des combats. Désolé, vous êtes rentré dans l'armée de Dieu. La plus belle chose que vous avez faite dans votre vie. Mais il va y avoir des combats. La seule chose qui est vraiment trippante, c'est que dans ces combats-là, on connaît déjà la fin. C'est qui les victorieux? Amen. C'est toutes nous autres. Merci parce que Jésus-Christ a déjà payé, il a déjà acquéri les choses. Et nous, on va juste rentrer dedans. Et ce matin, je vais vous donner des clés pour rentrer dedans. Et puis, à partir de ce moment-là, les géants, vous allez voir, ils n'auront pas d'autre choix que de plier le genou. Parce que vous savez, il y en a certains de vous autres qui ont déjà monté une montagne. Bon, tout le monde. Quand on va, mettons, sur le Mont-Saint-Hilaire, tu sais, toi, je pense que tu as déjà monté une montagne. Hein? Quand on monte sur le Mont-Saint-Hilaire puis qu'on regarde en bas, voyez, les piscines sont grosses de même, les autos sont grosses de même. On a l'impression qu'avec notre doigt, on pourrait les tasser. On pourrait refaire la structure de la ville, tu sais. Oh, toi, tu veux une piscine, toi? Tiens, toi, tu veux ta maison? Pouf. Quand on arrive en bas, par exemple, quand on regarde en bas, la maison est un petit peu plus dure à tasser, tu sais. Fait que ça va dépendre de notre regard. Notre vision est super importante. Ce matin, on va développer notre vision parce que Dieu nous appelle à être des aigles et non des poules. Pourtant, c'est deux oiseaux. Hein? OK. La chose reste la même. Peu importe la maison, le géant, tout ça, ça reste le même. Mais c'est notre vision qui change. Quand on a une vision céleste, on voit les choses de façon céleste. Quand on a une vision terrestre, on a une vision terrestre. Alors, les choses ne changent pas. Mais c'est notre vision à nous qui change, qui vont faire changer les choses. Dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance, et dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on avait des rois qui régnaient. Définition du roi, celui qui règne. Dictionnaire Jean Pelletier. Il y avait des rois qui règnent, et ces rois-là, lorsqu'ils étaient bénis, le peuple était béni. Et comme ces rois-là étaient maudits, le peuple était maudit. Vous saviez, c'est comme ça que fonctionnait. Tout le monde savait ça. De nos jours, dans cette nouvelle alliance, tu es maintenant en communion avec ton Dieu. Tu es maintenant en communion. Tu n'as plus besoin d'un roi, tu n'as plus besoin d'un gouverneur sur ta tête qui va te dire que tu es béni ou tu n'es pas béni. Tu es complètement en communion avec Dieu, avec Jésus. Donc, ta bénédiction, tu peux aller la chercher. Hein? Fait qu'on va voir comment aller la chercher ce matin. Dieu t'appelle personnellement dans ta terre promise. OK? Ta terre promise, aujourd'hui, OK? C'est un endroit où coule le lait et le miel. OK? C'est la terre promise, c'est un endroit où coule le lait et le miel. C'est l'appel sur ta vie. C'est ça à quoi Dieu te veut. OK? À cet endroit-là, il va y avoir des bénéfices. On va regarder ensemble dans Nombre 13, 18 à 20. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre promise? Nombre 13, 18 à 20. Mais qu'y a-t-il dans la terre promise? Est-ce que vous avez vos épées? Parce que tantôt, vous m'avez dit, c'est des guerriers, là. Des guerriers, ça a des épées. Il y en a qui ont des épées électroniques de maintenant. Il y en a qui ont des épées en papier. Mais ça prend vos épées, là. OK? Fait qu'on s'en va dans notre épée. On regarde dans Nombre 13, 18 à 20. Et ça nous dit, vous verrez le pays. C'est Moïse qui envoie les espions. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage. Si vous avez des highlighters, on highlight ça. Ayez bon courage. Ça veut dire que s'il nous dit d'avoir bon courage, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dedans. Là. Hein? Donc, ayez bon courage et prenez des fruits. Il y a des fruits dans la terre promise. Là. Pays, de ce pays, du pays, c'était le temps des premiers raisins. Il y a des fruits dans le pays. OK? Quand on va rentrer dans notre terre promise, il va y avoir des fruits. Quel genre de fruits? Dans Nombre 13, 23, 24, il nous le dit. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux, je veux apporter votre attention, sur, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés au IGA, vous autres, ramasser une grappe de raisin, puis être pogné à deux avec un bout de bois pour la sortir du IGA, parce qu'à ce temps, ils ont des portes coulissantes, ça pourra peut-être passer. Puis là, mettre ça dans ta voiture. Je ne sais pas, mais ça vous donne-tu une idée de quel genre de fruits qu'il y a dans votre terre promise? Hein? Ce n'est pas des petits raisins, là. C'est des raisins à deux qu'il faut sortir de là. Ça, c'est la terre promise que Dieu te promet. C'est à cet endroit-là que tu vas avoir ce genre de fruits-là. OK? Ils portèrent le moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, des figues. Fait qu'il n'y a pas juste des méga fruits, il y a plein de fruits. OK? C'est une terre prospère. Des figues. On donna ce lieu du nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe, Escol ça veut dire grappe, que les enfants d'Israël y coupèrent. Dans Nombre 14, puis là on tourne un petit peu plus loin, 18, ça nous dit, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » C'est pas où un pays où coule le vinaigre, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a des méga fruits. C'est un pays qui fait bon d'être parce qu'il y a le lait et le miel. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Et puis, ma maman, quand j'allais me coucher le soir, elle me faisait un gros verre de lait qu'elle faisait chauffer parce que dans une casserole parce qu'il n'y a pas de micro-ondes dans ce temps-là. Et puis, après ça, on mettait du miel là-dedans. Puis là, je me buvais un verre de lait chaud avec du miel. C'était tellement réconfortant. Quand on est dans notre terre promise, là, qu'on sait que c'est notre terre promise que Dieu nous a donnée, cet endroit-là, peu importe ce qu'il va y avoir dedans, ce qu'on va avoir à conquérir, c'est un endroit réconfortant. C'est un endroit où on sait qu'on est à la bonne place, qu'on sait qu'on est à l'endroit où Dieu nous veut. Puis ça, quand on est à la bonne place, à l'endroit où Dieu nous veut, peu importe ce qui arrive, on est capable de poursuivre le chemin, d'avoir bon courage. Ayez bon courage. Donc, le lait et le miel, c'est quelque chose de bon. La terre promise aujourd'hui pour nous autres, c'est un endroit où tu vas être prospère, prospère dans le vrai sens de la prospérité, où ce que tout ce que tu vas entreprendre dans ce milieu-là va réussir. Ta relation amoureuse, tes enfants,
ton ministère, toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas entreprendre va réussir. Prospère égale pas monétaire, c'est la santé. Et aussi, bien sûr, les finances vont être au rendez-vous. C'est un endroit où tu vas avoir un épanouissement dans ta vie. C'est un endroit où tu vas t'épanouir. C'est un endroit où ça va répondre aux désirs de ton cœur, pasteur Jérémie l'a dit tantôt. C'est un endroit où tu vas être bien. C'est un endroit où tu vas être efficace pour le royaume de Dieu. Et c'est aussi un endroit où tes finances vont être au rendez-vous. Et aussi un endroit où tu vas être une bénédiction pour le corps. Parce qu'on n'est pas appelé à être tout seul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une gang qui a rentré dans la terre promise. Non, une gang qui n'a pas rentré, mais il y a une gang qui a rentré. Puis ils étaient tous dans la même terre promise, mais ils ont travaillé ensemble. Et ils ont été une bénédiction les uns pour les autres. Ils étaient deux à porter la grappe. Tu n'es pas tout seul. Fait que ça va travailler ensemble. Ta terre promise, c'est ton appel. Là, tu vas vivre la plénitude et les bienfaits de la terre promise. La plénitude et les bienfaits de la main de Dieu sur ta vie, c'est quand tu rentres dans ton appel. Ton appel, là, c'est pas nécessairement de prêcher. C'est pas il y a toutes sortes d'appels. Il y en a que c'est les finances, il y en a que c'est l'exhortation. Puis, c'est pas une question d'âge. Hein. Il y en a de tous les âges qui ont rentré dans la terre promise. C'est vraiment pas une question d'âge. Il n'y a pas une date d'expiration sur la terre promise. Il y a juste un temps où ce que toi, tu décides et tu prends bon courage et tu fonces. Et on va voir parce que quand tu vas foncer pour entrer dans ta terre promise, il y en a un qui ne veut pas que tu sois là. Puis il va lever des géants devant toi. Mais savez-vous quoi? On va toutes les terrasser ce matin. OK? On va faire ça ensemble. Moïse avait un objectif. Moïse, ses yeux étaient tournés vers le ciel. Son objectif, c'était de voir la gloire de Dieu. Le peuple avait un objectif, mais ses yeux étaient tournés vers le terrestre et c'était d'avoir la bénédiction de Dieu. Deux choses bien différentes. Moïse, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il voulait voir la gloire de Dieu découler. Le peuple, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il voulait de la manne, il voulait une sorte d'affaire. C'était autre chose. Donc, notre perspective, encore une fois, il faut avoir une perspective sur notre terre promise céleste et non pas une perspective terrestre. Parce que quand on regarde à l'homme, le peuple avait les yeux fixés sur l'homme Moïse. Amène-nous, puis Moïse, t'es ici, puis Moïse, t'es ça, puis blablabla. Bla, bla. Il avait les yeux fixés sur l'homme, quand dans le fond, il aurait dû avoir les yeux fixés sur Dieu. Aujourd'hui, il faut avoir les yeux fixés sur le Saint-Esprit qui va être ton guide pour t'amener dans ta terre promise à toi. Où est-ce que tu vas être efficace, heureux, prospère, béni, que tous les fruits, la grosse grappe de raisin, là, tu vas traîner avec toi, puis ça va venir avec toi. Dans ce cas-là, ici, on avait, il y avait toutes sortes de bénédictions là, dans le peuple quand il était dans le désert. Okay? Il était au milieu du désert, vous vous rappelez, il y avait la manne, il y avait les chaussures qui ne s'usaient pas. Il y avait la colonne de feu la nuit, les réchauffer, les éclairer. Il y avait la nuée dans le jour pour les guider et aussi les cacher du soleil. C'était-tu assez fantastique? Mais ils ont réussi à chialer quand même. Tu sais, je veux dire, tu as tout ça. Parce que les yeux étaient où? Ils étaient terrestres. Ils regardaient par en dessous. Puis même que la manne s'était passée, à un moment donné, Dieu a décidé de lui faire une table d'hôte, les a soignés du poulet. T'sais. Fait que vraiment, tu sais, à un moment donné, incapable d'être satisfait avec question. OK? Parce que si on regarde ensemble, Saint-Hubert, c'est ça. Si on regarde ensemble, l'Égypte, ça représente le monde. Ça va pour tout le monde? Le désert, c'est un chemin. C'est juste un chemin. Mais Dieu, il est là dans ton chemin. Dieu, il est là. Il y a des bénédictions pour toi dans le chemin. Il y a toutes sortes de... Il y a de la manne, il y a des souliers qui ne s'usent pas, il y a la nuit. Il ne veut pas que tu restes là, il veut te guider. Puis, ouais, vas-y, parce que j'ai une terre promise pour toi qui est un petit peu plus loin. La terre promise, c'est ton appel dans le royaume. C'est ce que tu as à faire pour Dieu. C'est l'endroit où est-ce que tu vas recevoir la pleine bénédiction du Seigneur pour accomplir quelque chose pour son royaume. Parce que c'est jamais en dehors de lui. Ce qu'on fait, c'est pour lui. Toujours. Fait qu'il y en a-tu qui veulent rentrer dans le terre promise un matin? S'il y en a qui veulent rentrer dans le terre promise, on va regarder, mais c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement très, très facile. C'est marqué « Ayez bon courage ». Bon. Mais on va répondre pleinement à l'appel de Dieu ce matin. Ça va? OK. Certains d'entre eux, dans le peuple d'Israël, ont préféré le désert. Vous comprenez, il y était 12, là. Il y en a 10 qui ont décidé de rester dans le désert. Il y en a juste 2. Qui avaient une perspective différente. Et eux autres, ils ont voulu rentrer. Mais le désert, je veux dire, sincèrement, c'est pas si mauvais que ça. Il y a de la manne. Tu sais, je veux dire, t'es nourri. Mais dans ta promise, il y a le lait et le miel, par exemple. Dieu va t'aider dans le désert. Mais dans ta promise, il va te donner les meilleurs fruits du pays. La méga grappe IGA, tous les autres fruits qui vont avec. Ça, c'est tout pour toi dans ta terre promise. Puis ça va porter du fruit. Puis les gens vont le voir, que les yeux des autres vont voir que tu es rentré dans quelque chose de nouveau. Et ça devrait susciter une certaine passion puis amener les gens à foncer eux autres aussi pour toucher, pour saisir leur pays, pour saisir leurs fruits, pour saisir leur place dans la terre promise. OK? C'est un passage et pas une destination, le désert, c'est bien important, mais ça, il y a un temps d'apprentissage. On apprend des choses quand même dans le désert. OK? Dans ce bout de désert-là, on apprend à être dépendant de Dieu. On apprend à compter seulement sur Dieu. On apprend à voir agir Dieu. Et ça, il faut garder ça en mémoire. Il faut garder en mémoire ce que Dieu fait dans notre vie. C'est marqué de l'écrire. Je vous conseille de l'écrire parce que quand les géants se présentent, on a besoin d'avoir ça en mémoire. Puis on va voir pourquoi tantôt. OK? Il y en a certains qui vont préférer le désert parce qu'ils vont avoir peur des géants. Puis il y en a même qui ont tellement peur qu'ils vont préférer retourner en Égypte. Le peuple regardait à Moïse, il ne regardait pas à Dieu. Fait quand Moïse, ça, s'il n'était pas là pendant un certain temps, le peuple chancelait, claquait du genou, il se passait toutes sortes d'affaires, il voulait retourner en Égypte. OK? Mais Dieu, Moïse avait ses regards sur Dieu. Puis que nous, on va regarder à ça. Il y a une chose de dangereux dans le désert, vous comprenez? Puis la chose dangereuse, je vais vous la montrer. Checkez bien ça, je l'ai amené avec moi. OK? Quelque chose d'extrêmement dangereux. Il l'avait dit, c'était dangereux, hein? Qu'est-ce qui est dangereux, là? C'est de planter ta tente dans le désert. Si tu t'imagines que tu vas être bien parce que là, tu as de la manne, parce que tes souliers vont bien, parce que tu as de la colonne de feu, parce que tu as la nuée, c'est pas ça que Dieu veut. Pourquoi Dieu te donne de la manne dans le désert au lieu de te donner le lait et le miel? C'est parce qu'il veut pas que tu sois confortable. Sors de là, ça presse. C'est pas obligé de prendre 40 ans, pas obligé de prendre 40 jours. C'est une question d'apprentissage, de disposition. Tu peux sortir de là très rapidement. Puis un autre temps, il y a des choses qui vont faire qu'on va rester un petit peu plus longtemps. Mais Dieu est avec nous autres à ce moment-là. Mais surtout, s'il vous plaît, installe pas ta tente dans le désert. Dans Nombre 13, 33. Nombre 13, 33, ça nous dit... Ça nous dit, et nous... Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est à nos yeux et aux leurs. Aux yeux de Dieu, les sauterelles, là, c'est les géants, en passant. Ton regard spirituel, les sauterelles, c'est les géants. Les géants dans nos vies servent à deux choses, être assujettis ou être détruits. C'est sûr que vous allez me dire, Jean, j'aimerais ça d'en avoir un géant chez nous. C'est plus facile pour changer les lumières. C'est plus facile pour enlever la neige sur le toit ou ramener la cheminée. Tu sais, ou... Mais non, ils sont appelés à être détruits. Et les géants là, sont pas là pour t'aider, ils sont là pour être tassés du chemin. OK, on va voir ça. Puis on va le voir dans la vie de David. OK, David, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais avoir deux exemples avec vous. J'ai Caleb et David. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec des géants, eux autres? Vous allez voir. OK, fait qu'on s'en va dans 1 Samuel 17. 10, 11. Samuel 17, 10, 11. J'ai dit 1 Samuel, pardon. Excusez-moi, 1 Samuel 17, 10, 11. C'est ça que j'ai dit, finalement. J'articule quand même relativement bien. Êtes-vous rendu? All right. Le Philistin dit encore, le Philistin, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi! » De l'oxygène. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je vous dirais que dans le naturel, là, il y avait raison d'avoir peur. Il y avait vraiment raison parce que le géant il était gros. Il y avait des pads en airain, il y avait un bouclier en acier, une armure, un casque, un javelot dans le dos. Ça faisait peur. Puis ces hommes de guerre-là, parce que c'était des hommes de guerre-là, pour que ces hommes de guerre-là aient peur de cette machine-là, c'est parce qu'ils devaient faire vraiment peur. Mais eux autres, ils le regardaient toutes avec leur regard naturel. Ils le regardaient toutes d'en bas. Puis combien ils étaient grands. Mais le combat, mes amis, là, c'est pas dans la chair et le sang. C'est spirituel. Puis aujourd'hui, on va combattre ces géants-là de façon spirituelle, puis ils vont tomber, puis ils vont même tomber dans le naturel. Parce que le spirituel demeure, on est appelé à avoir un regard d'aigle et non pas un regard de poule. C'est une question de vision. C'est vraiment une question de vision. Puis ça, ce matin, il faut vraiment le saisir. C'est une question de vision. Puis c'est d'apprendre à avoir la vision céleste sur notre vie. Puis ça demande des petits efforts. C'est apprendre à vivre dans cette dimension-là. Vous savez, il y a une autre dimension. Il y a une dimension qu'on est là, mais il y a une dimension qui est céleste. Il y a une dimension où ce qu'on est, où ce qu'on est bien, où ce que la gloire de Dieu est, où ce que les provisions de Dieu sont pour venir ici, terrestre, pour combattre nos géants. OK? Si on regarde de façon naturelle, je vous l'ai dit, c'est sûr que c'est extrêmement, il était vraiment gros. Mais il va y avoir une attitude. OK? Puis on va regarder l'attitude de David. David avait un cœur de serviteur. Et ça, c'est super important pour rentrer dans ta terre promise. OK? On s'en vient vers les clés, là. Le cœur de serviteur, c'est super important pour rentrer dans ta terre promise. Regardez bien. OK, on s'en va dans 1 Samuel 17. Je ne fais pas trop tourner quand même, c'est pas pire. 16 à 18. Le Philistin s'avançait matin et soir. Ça, ça veut dire là, qu'il pognait le téléphone, là, puis il les appelait matin et soir, puis lui disait, « Écoute-moi bien, je vais te briser. Je vais te faire du mal. Je vais venir et je vais t'écraser, petite fourmi. » Hein? À tous les soirs. Puis là, les chevaliers d'Israël, ils tremblaient de tous bords, de tous côtés. On appelle ça de l'oppression. Avez-vous déjà vécu ça, de l'oppression? Y en a-t-il qui ont déjà vécu ça? Je vais vous conter un beau petit témoignage d'un monsieur qui s'appelle Brian Johnson. Vous connaissez l'église de Bethel Church? C'est la personne qui est en charge de la louange là-bas. Et ce jeune homme-là, je me rappelle pas de toutes les dates, là, mais je vous rapporte ça dans le mieux que je peux, mais l'objectif, c'est que vous allez voir, c'est ça va se ressembler vraiment. Là, l'objectif, c'est que vous allez comprendre le concept. C'est qu'à partir de 13 ans, ce jeune homme-là a commencé à vivre des crises d'angoisse. Et d'angoisse profonde. Genre, il était à l'église, et il est parti de l'église en courant, s'est en allé chez eux, s'enfermer dans la salle de bain. Clac! Ça, on appelle ça avoir peur. Des crises d'angoisse immense. Son père est arrivé à la maison, et je ne sais pas, il était où son mère. Non, son père est arrivé à la maison, puis il l'a pris, puis il a commencé à dire qu'est-ce qu'il y a, il a expliqué qu'est-ce qu'il vivait, puis il a commencé avec lui à livrer le combat de la louange et de l'adoration. Il a commencé à montrer à son fils comment le livrer, le combat, comment terrasser ce géant-là avec la louange et l'adoration. Et à chaque soir, ça lui prenait absolument vers 11 heures ses crises d'angoisse. Des fois, ça durait jusqu'à 5-6 heures du matin, il était avec son fils, il déclarait la louange, il rentrait dans l'adoration et un moment donné, ça partait. Des fois, ça prenait 2 heures, 3 heures, des fois 6 heures, des fois 8 heures et ça partait. Ça a duré comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans qu'il parlait, quelque chose dans ces environs-là, alors qu'il prenait l'avion. Et puis là, il s'est mis à avoir une crise d'angoisse qui est tombée sur lui. Et puis, il savait comment combattre. Il avait appris la clé. Il était capable de rentrer dans la louange, rentrer dans l'adoration de son Dieu. Fait qu'il a commencé à rentrer dans la louange, l'adoration. Puis là, il cherchait un verset. La fille à côté, elle le trouvait bien bizarre, mais c'est ça pareil. Fait qu'il était là, puis il était là-dedans, puis il se battait, tu sais. Il déclarait qu'il était Dieu sur sa vie. Puis tout d'un coup, il a entendu une voix audible qui a dit, « Maintenant, tu es délivré et tu vas l'enseigner. » Clé numéro 1, louange et adoration. Quand tu as peur dans ta vie, mets-toi à louer, mets-toi à adorer. Vous savez, il fut un temps de ma vie, je faisais de l'émondage, je montais dans les arbres, j'étais à 100 pieds avec une chaîne de ça, puis un paquet de bébelles. Puis des fois, il fallait que j'aille couper la petite branche à l'autre bout, là. Puis je vous avouerais que ça me tentait plus ou moins. Hein? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je rentrais dans l'adoration. Je me mettais à prier, Seigneur, 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 c'est mon travail, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Tout est là, les cordes sont là, je suis en sécurité, tu sais. Mais ça reste qu'elle n'est pas grosse, la branche, tu sais. Puis là, t'as ta chaîne, tu sais. Je rentrais dans l'adoration, dans la présence de Dieu, puis ça me donnait le courage. Je me rendais jusqu'à la petite branche, je la coupais, puis je revenais. Mais il n'y a pas de courage sans peur en passant. Oh, révélation au matin. Fait que s'il dit « Ayez bon courage », c'est parce qu'il va y peut-être avoir une petite peur qui va s'installer. Mais si la petite peur s'installe et tu la laisses grossir, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas flécher le genou. Tu vas t'écraser drette là. Et j'ai aussi enseigné l'escalade. Et quand j'avais des jeunes avec moi qui me disaient « J'ai le vertige. » OK, tu as le vertige. Parfait, on va essayer ça ensemble. On partait un petit peu, faisait une coupe de pied, redescendait. Pour moi, le vertige, c'est juste une peur incontrôlée. Fait que là, je parlais un peu, je refaisais faire la même affaire, montais une coupe de pied plus haut. À la fin de la journée, montais jusqu'en l'air, hein? Puis vous leur revenez le lendemain. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la peur peut le terrasser. D'un autre côté, là, il n'aurait jamais fait ça. Jamais, 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 jamais fait ça. Mais il a pris confiance. Il s'est rappelé que le coup d'avant, il avait monté jusque-là. Le coup d'après, il a monté un petit peu. Il s'est rappelé que ça avait bien été. Vous comprenez? Fait qu'il faut se rappeler ce que Dieu a fait, parce que Dieu nous a délivrés de toutes sortes de choses. Il faut se rappeler de notre premier amour, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. La première fois que Jésus nous a rencontrés, qu'est-ce qui est arrivé? Si on s'en rappelle, ça va être toute une force. Fait que là, on a la louange d'adoration. On connaît quelqu'un qui s'en est très, très bien sorti à ce niveau-là. Le Philistin, il s'avançait matin et soir. Là, il faisait de l'oppression. Il se présenta pendant 40 jours. Écoute, moi, un gars de balayeuse, là, il m'appelle chez nous. J'appelle ça de l'harcèlement. Là, il m'appelle trois fois, puis je suis plus capable. T'sais. 40 jours à te faire dire, « Moi, brisé! » Puis je suis sûr qu'il avait une grosse voix. « S'il m'a dit, il va te briser! » Ça aurait été moins élevé un peu. Mais il avait vraiment une grosse voix. « Il m'a te brisé, il m'a te fait mal! Il m'a te brisé! Envoie-moi ça un! Come on! » Bon, exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la lutte, là. Fait que c'est de même que ça se passait, là. Israël dit à David, son fils, OK? Isaïe, pardon, dit à David, son fils. Écoutez, là, le cœur de serviteur. « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ses 10 pains et cours au camp, vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Si David aurait dit, « Hey, ils m'ont pas demandé d'y aller, moi. Hello! » Comment ça qu'eux autres sont partis au combat, puis moi, je peux pas y aller? Ben voyons, c'est mon appel. Moi, j'étais un roi. Dieu me l'a montré, regarde, j'étais un roi, je suis capable de battre des lions, battre des ours. Je vais y aller, moi, au combat. Je vais pas porter du pain, là, c'est pas ma job. Excusez, là, mais il serait jamais arrivé ce qui est arrivé. Son père, il a demandé, « Sers, mon fils, va voir qu'est-ce qui se passe avec tes frères. Apporte-leur à manger. Viens leur donner la substance qu'il faut pour qu'ils puissent être au combat. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a vu ça, lui. Il a vu cette espèce de « m'a brisé » qui était là devant lui. Il s'est dit « Tu vas me briser, toi. » On va voir plus loin qu'est-ce qu'il s'est dit, OK? 1 Samuel 17:40. Mais imaginez s'il refuse de servir David. Passe straight à côté. Il retourne avec les moutons dans sa tente dans le désert. Ben, les moutons, t'as pas dans le désert, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'il passe directement à côté. OK? Directement à côté. Fait que dans 1 Samuel 17:40, ça nous dit « Il prit en main son bâton » choisit dans le torrent 5 pierres polies. Ça, là, soulignez ça. 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Avant ça, il a dit, « T'es qui, toi, va te briser? T'es qui, toi, me dit que tu vas me briser? Je sers le Dieu vivant. » Je sers le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Je sers le Dieu qui m'a sorti tout le monde du désert, qui a donné de la manne. Je sers ce Dieu-là qui a fait toutes ces choses-là. Puis toi, m'a brisé. Tu penses que tu vas me briser? C'est ça qu'il a dit. Il dit, hey, moi y aller, moi. Fait que là, qu'est-ce qu'a fait David? Ils sont venus, ils ont mis une armure sur le dos. Voyons, là, il n'en voulait pas cette armure-là. C'était pas à lui, ça. Il n'a pas besoin de ça. Il a enlevé ça. Qu'est-ce qu'a fait David? Il a fait qu'est-ce qu'il connaissait. Il est allé dans la rivière chercher 5 pierres. Puis il est parti avec son bâton. Mais ces pierres-là, savez-vous, ils étaient où ces pierres-là? Dans la rivière. Vous savez, des pierres normales, là, c'est tout cassé, tout croche. Mais pour lancer avec une fronde, si tu lances une pierre normale avec ta fronde, à part n'importe comment. Mais David avait besoin d'aller chercher, là j'en ai sorti une grosse, mais il y en a des plus petites, une pierre qui avait été lavée dans la rivière. Et la rivière, le courant, ça dit ici qu'il l'a pris dans le torrent. Qu'est-ce que ça fait, le torrent? Ça, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Puis quand que le courant il est fort, quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, quand tu es vraiment dans le Saint-Esprit, le courant, il fait bouger les pierres. Et ces pierres-là, qui sont polies, qui sont entrechoquées, ils bougent. Il se lève. Et ces pierres-là, David, il est venu les chercher. Et ça, c'est des pierres de révélation. Et c'est exactement ça qu'il a lancé dans le front de « Je vais te briser ». Et le géant Goliath a plié le genou et s'est effondré devant un petit bonhomme avec ses pierres qui avaient été cherchées au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, quel géant va se lever devant toi, là, que tu vas aller avoir été cherché au cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'adoration la plus profonde, tes pierres, tes révélations, et que tu vas y lancer. Il y a un seul choix, ce géant-là. Un seul choix. Si vous voulez, on peut faire un test. Est-ce quelqu'un qui est grand ici? Non, mais il y a un seul choix. Il va s'effondrer.
puis il va tomber, puis il va te faire place. Non, ben vous riez, mais c'est sérieux. OK. C'est là que tu puisses ta révélation dans la louange et l'adoration. On l'a vu la semaine passée avec le pasteur Michael, l'importance d'être connecté au cœur de Dieu. Parce que ces révélations-là, c'est celles qui vont te rendre, qui vont être tes armes dans ta... Il y en avait cinq, il y en a besoin d'une. Fait que ça veut dire qu'il y en avait plusieurs pour lui. Puis plus que le courant est fort, plus tu es dans la présence de Dieu, plus que ces roches-là sont bougées, plus que tu peux l'en prendre. Plus que tu peux l'en prendre, puis plus tu peux l'en mettre dans ta gibotière, pour dire, reprendre l'expression, et puis plus que tu vas être armé face à certains géants. Vous savez, quand on est sur le bord d'une rivière, des fois, il y en a qui sont plates, il y en a qui sont rondes. On a pour certains, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites, selon notre besoin, certaines révélations. Moi, je sais que je suis quand même pas pire, j'en prends des plates, là, je suis capable de faire des bons. Hein? Un méchant bout, t'es en bas de 15 bons, absolument, ça, c'est sûr que je bats ça. Mais il y a des pierres sont différentes, les révélations sont différentes. La pierre est polie. Elle est polie, elle est polie, elle est polie. Elle est toute polie, toutes les imperfections sont enlevées. T'as la vraie pierre que ça te prend pour lancer. C'est dans l'adoration que tu vas puiser ta pierre. Puis David, il a absolument pas pris l'armure qu'on lui avait offert, qui était l'armure de l'autre personne. Il est allé chercher ses pierres, ses révélations, son équipement à lui, pour rencontrer le géant qui s'était levé devant lui. Dans 1 Samuel 17:48. Là, vous allez voir qu'est-ce que ça fait quand on est allé chercher des révélations. Checkez bien l'attitude. L'attitude. Regardez bien l'attitude. Des fois, j'ai de la misère avec mon français international. OK. 1 Samuel 17:48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. Le Philistin, il était lourd, hein? Il en avait de l'équipement sur le dos pour sa protection. Puis là, il s'est mis à marcher. Boum, boum, boum. Puis je suis sûr qu'il se disait dans sa tête, m'a brisé. Fait que là, il avançait, tu sais, vers David. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Hey! Il a pris ses révélations, il les a mis dans sa fronde et il s'est mis à courir vers son ennemi. Y en avait-tu du doute dans sa tête? Il avait... Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu une petite crainte quand il l'a vu arriver et que le sol bougeait de même? Ça lui a donné un élan. Il a levé et il est parti. Il est parti avec sa roche. Oh! Sing! Par! Pou! Pou! Plus de géant! La gang en arrière, ils ont fait. Ouh! Ouh! I'm alive! Non, fait que la gang en arrière, ils ont capoté. Leur héros terrestre venait d'être vaincu par une petite pierre céleste. Quand on dit un grain de foi, là, un grain de foi dans l'engrenage de Satan, je vous garantis que ça va pas bien. Le bessic avance plus trop. C'est ça que ça prend. Aller chercher nos révélations. C'est un grain de sable qu'on a besoin, c'est un grain de sable. C'est une grosse roche, c'est une grosse roche. Ta révélation pour ton géant qui va venir entre toi. Il y a deux choses qui peuvent t'empêcher maintenant d'entrer dans ta terre promise. Là, on va les voir et on va voir comment les défaire, OK? Il y avait une différence, je veux juste vous dire qu'il y avait une différence entre David, Caleb et le reste du peuple, OK? On va voir un petit peu plus loin. Il y a un texte qui dit qu'il est animé d'un autre esprit, mais on va le voir un petit peu plus loin. Il y avait une différence. Eux, il y avait une vision céleste. Il y avait une mémoire de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Le peuple, eux autres, il a déjà tout oublié ça. Ils couraient après la prochaine bénédiction. Bon, la terre promise. Oh, gros géant. Ouais, mais c'est parce qu'il a ouvert la mer en arrière. Là, tu t'en rappelles-tu? Non. Tu sais, puis c'est pas assez gros, ça, la mer, finalement, tu sais. C'est ça. Fait que, écoute, un moment donné, ces gens-là étaient animés d'un autre esprit. Fait que les deux choses qui peuvent t'empêcher d'entrer, il y a la peur. On l'a vu, la peur peut nous freiner. La peur peut dominer dans notre vie, mais pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Et David et Caleb avaient tellement confiance en leur Dieu. Ils avaient tellement saisi des choses que quand ces géants-là sont arrivés, il n'y avait pas de doute que Dieu agirait. Je vous dis, les trois, là, Médac, Abednego, et puis ce que j'ai toujours de la misère à nommer, quand ils ont rentré dans la fournaise, là, Ben, il n'y a pas le choix, là. Ils ont poussé dans la fournaise. Mais quand même, quand ils ont rentré dans la fournaise, il était où, Jésus? Dans la fournaise, pas avant. Il était dedans. Il savait très bien que Dieu agirait. Parce qu'il était fidèle, parce qu'il était collé au cœur de Dieu. Parce qu'eux autres, là, l'adoration puis la louange, là, c'était quelque chose qui était partie de leur vie quotidienne. Ils rentraient dans la présence de Dieu, puis ils savaient que Dieu lui sortirait de là comme il sortirait d'autres choses. Comment? Ça, ils ne savaient pas. Mais ils savaient, par exemple, qu'il serait sorti de là. Fait que c'est ce qui est arrivé avec ces trois jeunes hommes, et ce qui est arrivé avec David, et ce qui est arrivé avec Caleb aussi. L'autre chose qui va nous freiner, c'est la langue. La langue va nous empêcher de rentrer dans notre terre promise. La peur et la langue. Nombre 13, 27 à 33. Là, on va lire un peu. Je vais commencer, vous viendrez me rejoindre, OK? Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Fait que là, écoutez, il avait vu qu'il y avait le lait, le miel, il avait vu qu'il y avait les fruits, la méga grappe, tout le setup. Il avait vu que c'était une terre promise fructueuse. Il avait vu que c'était une terre promise qui était intéressante. Et voilà ce qu'ils ont dit. Mais, hein? C'est, soulignez-le, mais, un mot qui tue. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. On va bien le connaître, moi, Anak. Les Amalécites habitent le contré du Midi, les Hittitiens, les Jubébusiens et les Amoréens habitent les montagnes et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Mais le murmure contre Moïse. Les peuples murmuraient contre leur chef spirituel. Mauvaise réponse. À ne pas faire. OK. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est Caleb. Hey! Vous vous rappelez pas? La mer, la manne, les chaussures, la nuée, la colonne de feu. Go! Come on, gang! On a une terre promise. Il y a des gros raisins. Oui, il y a des grands géants, mais on va le prendre parce que Dieu a déjà fait des choses. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas. Mot à bannir. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël. Là, voyez, la peur, c'est contagieux. Hein? Quand tu as une petite peur, là, tu commences à proclamer à tout le monde, là, tu commences à murmurer, tu commences à dire à tout le monde. Puis là, souvent, dans la chaîne du téléphone, ça devient tout à de plus en plus gros. Tu sais, finalement, là, il y avait une petite chose, puis finalement, ah ben, il s'est fait frapper par un truck, puis finalement, il y a un avion qui a explosé, puis le pays est en faillite. Ça finit de même à la fin de la route. Fait que la peur, là, c'est quelque chose qui se build. Boule qui roule, amasse mousse, dans ce cas-là. OK? Fait que là, ça devient de plus, les gens ont de plus en plus peur, parce que là, ils font le décret, et ils font la nomenclature des choses qui font peur. Fait qu'on y est. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Aïe, aïe. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ils l'ont regardé d'en bas, hein? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce matin, on va changer de lunettes. Vraiment, là, faut changer de lunettes, tout le monde. À nos yeux naturels, ils sont des sauterelles. Aux yeux de Dieu, c'est les géants, les sauterelles. Tu ne peux entrer dans le pays si ta langue déclare le doute. Tu ne peux rentrer dans le pays si ta langue déclare le doute. Ta langue déclare le doute. Comment faire pour pas que ça soit ça? Le doute existe. La peur existe. Ces choses-là, ça existe. Mais quand tu t'en vas au cœur de Dieu, et tu vas chercher la vérité déclarée sur ta vie, le doute s'en va. Quand tu t'en vas dans la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration et que tu rentres dans la rivière, mais pas dans la rivière de l'eau est frette, dans la rivière, tu rentres dans la rivière. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la rivière? Il se passe deux choses. Premièrement, tu disparais. Fait que là, ils ne me voient plus à la caméra. Deuxièmement, ta chair, elle meurt. T'es mouru. Ta chair, elle meurt. Dans la rivière, t'as plus de pesanteur. Ta chair, elle a plus de poids. Tu
Tu peux prendre des choses extrêmement pesantes, les lever dans l'eau et en as-tu pas de problème? Vous devriez voir Jérémie à la plage. C'est de toute beauté, le petit bas, là. Puis là, il n'y en a plus de problème. Tu es dans l'eau, tu es dans la présence de Dieu. Tu peux aller chercher les pierres au fond. Je vous garantis, quand tu es dans l'eau, dans la présence de Dieu, pour ceux qui sont déjà allés dans le sud, que la création de Dieu est là, puis les merveilles de Dieu sont là, tu as vraiment plus le goût de t'en aller. Tu peux être là 2, 3, 4, 5 heures, ta peau toute ratatinée, puis tu es encore bien là, puis tu n'as pas le goût de sortir de la présence de Dieu. C'est ça qui se passe à la rivière. C'est là qu'on est appelé à être, mes amis. C'est là que Moïse vivait. C'est là que Paul vivait. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est là que Jésus vivait. C'est là que je veux vivre. Fait, qu'est-ce qui se passait? Ils ont murmuré, ils n'ont jamais rentré là-dedans. Mais quand on écoute ce que Dieu déclare sur nos vies et qu'on va le chercher, notre révélation dans la rivière, la peur s'en va. Le doute s'en va. Parce que tu sais que t'as Dieu, ton Dieu a déclaré sur ta vie que ce serait ça. Fait que quand Gérard arrive avec son armure puis il dit qu'il va te briser, t'as des petites nouvelles pour lui. T'as une coupe de roche. Ce que Dieu a déclaré sur le peuple à cause de leur murmure, on va aller le voir dans Nombre 14. C'est vraiment triste. Ce que Dieu a déclaré sur le peuple parce qu'il murmurait. Le peuple ne construisait pas avec Moïse. Il suivait. Mais on suit Moïse. Le peuple suivait. Il ne construisait pas. Ce n'était pas des guerriers, ce n'était pas des batailleurs. C'était rien de ça. Il n'y avait pas leur révélation. Il suivait Moïse. On n'est pas des suiveurs, mes amis. On t'appelait être la tête et non la queue. Il y a un ordre dans le corps, là. Il y a un ordre dans la vie chrétienne, là. Il y a un ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais on n'est pas appelé à être des suiveurs. On est appelé à être qui on est et avoir sa terre promise. Amen. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur eux? Tous ceux qui ont vu ma gloire, ça c'est Dieu qui dit ça, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté à 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous savez, mes frères, mes sœurs, on est de passage ici-bas. On n'est pas appelé à voir les choses comme les gens. On n'est pas appelé à entendre les choses comme les gens. On n'est pas appelé à voir les mêmes fruits que les gens. On est appelé à voir les fruits, à entendre et voir les choses célestes. C'est à ça qu'on est appelé. Et plus qu'on est dans la rivière, plus qu'on va goûter à cette dimension-là, plus qu'on va être dans cette dimension, le reste, notre corps devient léger. La chair, il faut la faire taire. Jésus-Christ lui-même a dû faire taire sa chair à Gethsémani. Sa chair, il parlait tellement fort qu'il y a des sueurs de sang qui coulaient sur lui. Jusqu'au moment où il a pris une décision d'écouter son esprit, il a mis la tête sur le serpent, cutlock, puis il est parti. On est appelé à vivre dans cette dimension-là. Cette dimension-là. Parce que sinon, on ne goûtera pas. Vous savez, de nos jours, là, les gens, ils ont des idoles. Des vedettes, des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des actrices, des professeurs, n'importe quoi, des idoles. Savez-vous quoi? Il y en a même qui ont des idoles, c'est le pasteur. Ah, révélation. Ouch. Mais il y en a que c'est ça. Puis il y en a même que c'est le directeur de louange. Ah. J'espère qu'il n'y en a pas trop, mais c'est ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On se peigne comme lui. On s'habille comme lui. Non, mais regardez dans le monde, là. Britney Spears et patati patata, là. Comment est-ce qu'il y en a qui s'habillent comme eux autres, qui se peignent comme eux autres, ils chantent comme eux autres, c'est rendu qu'ils parlent comme eux autres, ils ont la même attitude qu'eux autres? Vous n'avez pas remarqué ça? Je suis seul dans cette étape-là. OK, mais on continue tout seul. Fait que tout le monde, ils font ça, tu sais. Puis nous autres, notre idole, c'est Jésus. Fait qu'est-ce qui devrait arriver? On devrait se peigner comme Jésus. C'est plus facile pour certains d'autres. Mais c'est ça, on devrait marcher comme Jésus. On devrait agir comme Jésus. On devrait faire les mêmes choses que Jésus, et il nous dit même qu'on devrait en faire des plus grandes encore. C'est ça notre appel. Dans la rivière, découvrir Dieu pour être de plus en plus comme lui. C'est ça qu'on est appelé à faire. David et Caleb étaient animés d'un autre esprit, on le voit. Il était capable de se rappeler. David, quand il est arrivé devant Goliath, il s'est dit, c'est vrai qu'il est gros. Mais il a dit, tu sais, quand l'ours a pogné ma brebis, là, j'ai ouvert la gueule. J'ai une gueule, parce que c'est ça que ça a, un ours. Là. Quand le lion est venu pour prendre sa brebis, qu'est-ce qu'il a fait? Une prise de tête. Il l'a brisé. Le lion est tombé. Non, mais je fais des blagues, mais David se rappelait très, très bien ce que Dieu avait fait pour lui. Il se rappelait son premier amour. Quand ça va mal, là, quand l'oppression s'en vient, parce que si tu déranges, là, je te le dis tout de suite, si tu déranges dans le royaume de l'ennemi, tu vas recevoir des géants qui vont venir essayer de t'oppresser, puis de t'appeler, là, puis m'a brisé, puis tu ne seras jamais capable d'y rentrer, puis tu n'as pas les finances pour le faire, puis ta santé, check bien que je vais faire avec ta santé. Je te garantis qu'à ce moment-là, ça sera le fun qu'un petit peu avant, tu aies été chercher les roches qu'il faut. Puis que tu te rappelles ce que Dieu a déjà fait. C'est pas quand le géant se plante devant toi que c'est le temps d'aller courroyer roche en rivière. Comme on dit, d'aller chercher roche en rivière. Si on peut s'être préparé d'avance, avoir nos révélations, s'être bâti. Tu sais, ton église locale, là, quand tu es dans ton église locale, là, tu reçois, tu te transformes. Le courant de la présence de Dieu, du Saint-Esprit vient, puis il passe à travers toi, puis il lève les roches, puis là, tu en ramasses une, puis là, tu fais comme, ah là, c'est à moi, cette révélation-là. Merci, Seigneur Jésus, ça, c'est la mienne. Puis ça se fait dans l'église locale, ça se fait chez toi, dans ton temps de prière, dans ton temps personnel de louange et d'adoration. Parce que c'est quand tu es dans l'adoration que tu viens de coller au cœur de Dieu. Faut y aller à cet endroit-là. Puis je vous garantis une chose, puis une personne prévenue en vaut deux, j'ai de la misère avec ma jubetière, une personne avertie en vaut deux, je vous garantis que quand tu vas vouloir aller dans la présence de Dieu, là, hey, papa, chérie, hein, c'est sûr, dans le camping, non, c'est vraiment ça, quand tu vas vouloir entrer dans la présence de Dieu, c'est sûr que l'ennemi va venir essayer de te déranger, de te sortir, parce que ça va se passer ici. Parce que tant que tu es là, tu es loin d'être dans l'adoration, là, tu es dans tes pensées. Puis là, tu commences à déclarer Dieu. C'est pour ça que l'adoration, la louange est importante. Tu commences à déclarer qui est Dieu. C'est un processus. Tu commences à te placer dans la présence de Dieu. Tu dis comment est-ce qu'il est grand. Vous allez voir, votre langage dans l'adoration et dans la louange est bien différente. Dans la louange, tu déclares qui est Dieu. Tu déclares comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'il est bon. Dans l'adoration, tu vas déclarer ce qu'il a fait pour toi. Combien tu m'as aimé, Seigneur. Regarde dans la boîte que j'étais, comment tu m'as sorti de là, comment tu m'as lavé. Regarde ce que tu pourvois pour moi, Seigneur. Puis là, quand tu commences, là, ta mémoire, elle se rafraîchit, hein? Puis là, tout d'un coup, tu commences à avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire à Dieu, puis comment tu l'aimes. Puis quand tu déclares, tu fais une déclaration d'amour à ton époux, puis tu as de l'amour en retour. Excusez, là, mais c'est bien rare dans la vie que tu montres de l'amour à quelqu'un, puis ça revient pas. Bien, bien rare. Puis quand ça revient pas tout de suite, ça revient plus tard. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi, bénis-le. C'est ça que la parole de Dieu dit. Je sais que dans le monde, ça ne marche pas, là. T'es malade. Non, je ne suis pas malade. Il y a des fruits, puis ça va être des méga grappes de raisin que tu vas avoir. Parce que tu vas avoir déclaré la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qui va se passer. Mais ça, il va falloir que tu ailles te chercher au cœur de Dieu. Éphésiens 6, 13 nous dit... Parce qu'on est équipé, hein, les amis. On a plein d'armes. On a plein d'armes, mais il faut apprendre à les utiliser. Éphésiens 6, 13, ça nous dit, pourquoi prenez toutes les armes de Dieu? Parce qu'il va dans un combat. On vous l'a dit tantôt, vous êtes des guerriers, vous êtes rentrés dans la guerre. Too bad. Même si tu ne veux pas, il y en a une guerre. T'es impliqué, puis sais-tu quoi? C'est merveilleux parce que tu vas être victorieux. Pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Hey, écoute. On commence à être équipé, là. Hein? On en a de l'équipement. Prenez le casque du salut et prenez. Puis ça, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des armes défensives. C'est pour votre protection. Mais il n'y a pas personne qui s'en va à guerre avec juste des armes défensives. Ben, tu peux toujours, là, mais après moi, tu ne feras pas long dans le camp ennemi. Hein? Fait que ça te prend une arme offensive. Et cette arme offensive, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive. L'arme offensive, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on va l'utiliser de deux façons. Premièrement, elle va se révéler à toi dans la louange et l'adoration. Tu vas trouver tes pierres, puis avec ta bouche, tu vas la déclarer. La louange et l'adoration va devenir ta rivière, et c'est ça que c'est. Ton temps dans la présence de Dieu, ça devient ta rivière avec une source inépuisable de roche, de révélation. Inépuisable, parce que c'est marqué que pour l'éternité, on va découvrir Dieu. L'éternité. Fait que c'est une source inépuisable. Plus souvent tu vas aller dans la présence de Dieu, dans l'adoration, plus tu vas avoir des révélations. Puis plus tu vas avoir des révélations, tu vas pouvoir mettre la parole de Dieu dans ta fronde de bouche et tu vas pouvoir la lancer sur ton ennemi quand il va se présenter. Puis quand il va se présenter, il va être drôlement surpris parce que, ah, j'en ai une roche pour ça. Vous comprenez? Faut aller les chercher. Rentrer dans la présence de Dieu. Couler dans son onction. C'est au cœur de Dieu et de la louange qu'on va trouver nos pierres, qu'on va trouver nos révélations, qu'on va les avoir avec nous. Et c'est avec notre bouche qu'on va les lancer contre nos ennemis. Quand on se lance dans la rivière, tantôt on l'a vu, il se passe deux choses, on disparaît. Notre chair a meurt. Et c'est la présence de Dieu qui prend toute la place. Qui prend toute la place. Père éternel, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui laisse jamais ses enfants tout seul. Qui laisse jamais ses enfants sans ressources, Père éternel. Père éternel, tu nous as donné des armes. Tu nous as des armes pour le combat, Seigneur Jésus. Tu nous as donné ta présence, Seigneur Jésus. Tu nous as donné la louange, tu nous as donné l'adoration, Seigneur. Tu nous as donné ta parole, Père éternel, dans laquelle, qui est une source inépuisable, inépuisable de révélation. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Père éternel, parce qu'il n'y a pas un seul géant qui peut tenir devant tes enfants ce matin. Nous voulons le déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Alors qu'on te cherche, Seigneur, tu es celui qui se laisse trouver. Tu es celui qui prend toute la place, Seigneur Jésus, dans nos vies, Père éternel. Seigneur, ce matin, on te demande de venir nous immerger. Viens nous imbiber. Viens complètement, Seigneur, nous mettre, Seigneur, dans ta présence, Père éternel. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, remplir ce lieu. Seigneur Jésus, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu, Seigneur Jésus. Ta présence remplit ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia, combien tu es bon, Seigneur Jésus. Combien tu es grand. Ce matin, Dieu veut toucher ton cœur. Fais juste lever tes mains dans sa présence ce matin. Viens goûter à sa présence. Rentre dans sa présence ce matin. Ce matin, prends tes propres mots pour l'adorer. Prends tes propres mots, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Viens dire comment tu l'aimes. Viens dire comment tu l'aimes. Comment il est bon pour toi. Comment il est merveilleux pour toi. Oh, alléluia. Père, ce matin, entends nos cœurs. On veut goûter plus de toi, Seigneur. On n'est pas satisfait où on est, Père éternel. On sait que tu as mieux que ça pour nous, Seigneur, ce matin, Père éternel. Père éternel, on veut avancer, Seigneur. Et on ne veut pas juste avancer, on veut courir vers Jésus. On veut courir vers ce que tu nous promets, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. D'une façon fraîche, encore une fois, ce matin, Seigneur Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous dans cette place, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de géant trop grand pour toi, Seigneur Jésus. C'est toutes des fourmis, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu te révèles. Tu te révèles ce matin. Tu te révèles ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia!
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.